Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Margot Lanuzel. Nous sommes le mardi 7 juin 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Imaginez que vous êtes un scientifique et que vous avez fait une découverte majeure.
Eureka.
Une menace qui met en péril l'avenir de la planète entière et donc la survie de l'humanité. Et malgré ce danger imminent, personne ne vous écoute. Ce scénario, c'est celui d'un film qui a connu beaucoup de succès l'année dernière sur Netflix. Il s'appelle Don't Look Up.
Il y a 100% de chance qu'on crève tous. Je suis désolée.
Kate. Oh, Kate.
Ok.
L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus, c'est moins sûr.
C'est moins sûr.
Là, c'est de la fiction, sauf que cette scène en rappelle une autre.
Il faut que vous rendiez compte à un moment donné de la débilité et de la stupidité monstrueuse de vos propos. Comment osez-vous? Comment osez-vous?
Vous voyez, vous mélangez les choses. On doit parler science et pas de l'émotion.
Et vous, Olivier Gatti, comment est-ce que vous invitez encore des climato-sceptiques sur votre antenne?
Dans la vraie vie, les chercheurs qui travaillent sur les questions climatiques tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps et se heurtent bien souvent au mur de l'immobilisme, au point, vous allez l'entendre, de vouloir changer les choses eux-mêmes. Il n'est pas chercheur, mais journaliste au service science. J'accueille en studio Victor Garcia. Salut Victor.
Salut Margot.
Tu traites souvent des questions climatiques ici à l'Express. Ta position n'est évidemment pas comparable à celle des scientifiques qu'on vient d'entendre. Mais est-ce que toi aussi, tu as déjà pu ressentir une forme de frustration face à l'immobilisme sur ces questions ?
Alors oui, je me souviens par exemple il y a 5 ou 6 ans quand j'écrivais des articles sur la crise climatique, j'annonçais des choses assez catastrophiques sur la fonte des glaces, les températures qui explosent, etc. Mais ça marchait pas vraiment en fait, il y avait pas beaucoup de lecteurs et c'était vraiment pas du tout dans les articles qui fonctionnaient le mieux sur le site de l'Express. Maintenant ça a changé, les papiers sur l'environnement marchent quand même un petit peu mieux.
Et si on en revient aux chercheurs, de quand date leur première alerte sur le réchauffement climatique ?
Il y a quasiment plus de 50 ans en fait, parce que les premières alertes remontent à l'Organisation météorologique mondiale. Et puis, 12 ans plus tard, il y a eu la création du GIEC. Et donc, déjà, les premières alertes sur le climat avec des données qui étaient déjà solides, moins solides qu'aujourd'hui, mais quand même. Mais pendant très longtemps, en fait, on n'a pas tenu compte de toutes ces alertes et ça n'a pas été beaucoup repris ni par les politiques, ni par les médias, ni par les gens, en fait.
Donc, on n'a pas tenu compte de toutes ces alertes. Et ça, les scientifiques que tu as rencontrés ces dernières années t'ont expliqué à quel point ça pouvait être déprimant pour eux.
Oui, parfois, il y a une vraie déprime. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue il y a quelques années avec un écologue spécialiste des biomes. Et il me disait, par exemple, lui, quand il se promenait dans la forêt, il était capable de percevoir les changements climatiques. Il voyait, par exemple, des arbres qui étaient en plein dépérissement ou des espèces qui commençaient à disparaître ou qui étaient moins présentes qu'avant. Mais que les gens avec qui il se promenait se rendaient pas du tout compte de tout ça et puis s'y intéressaient pas vraiment. Et lui, ça lui créait un vrai spleen, en fait, une déprime par rapport à tout ça. J'ai aussi parlé à des glaciologues il y a quelques années et qui observaient une fonte des glaces, que ce soit dans les glaciers en France, dans le monde ou dans l'Antarctique, dans une quasi-indifférence générale, en fait.
Faire face à ce déni, tous les jours, régulièrement, etc., ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement dur sur le long terme.
Je vous présente Julien Carret, il est physicien et enseignant-chercheur, et il va nous accompagner tout au long de cet épisode.
C'est un peu comme Cassandre, quoi. C'est-à-dire, on a vraiment le sentiment, quand on s'est plongé dans toutes ces histoires-là, d'avoir vraiment compris quelque chose, et d'avoir en face des gens qui balancent des arguments, la plupart du temps, non recevables. Et ça, c'est vraiment très dur à vivre, en fait.
Alors d'ailleurs, ce spleen ou cette déprime a été théorisé par des psychologues, surtout aux États-Unis. Et en fait, ils se sont intéressés au stress pré-traumatique, qui est en fait une peur du futur chez ces spécialistes, et surtout une peur qu'on ne fasse rien en fait pour lutter contre le réchauffement climatique.
On connaît le stress post-traumatique, mais moins le stress pré-traumatique, Victor. Et pourtant, les choses bougent. Tu me disais que ces dernières années, tes articles sur le sujet avaient plus de succès, si j'ose dire. Est-ce que c'est parce que les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus visibles ?
Oui, il y a des choses qu'on peut voir de nos yeux, en fait. La fonte des glaces, le blanchiment des coraux. Et puis, il y a aussi des figures emblématiques qui ont émergé. Il y a eu Al Gore il y a plusieurs années, et puis Greta Thunberg plus récemment.
How dare you?
Donc en fait, tous ces phénomènes différents ont contribué à médiatiser le réchauffement climatique et du coup au fait qu'on entende de plus en plus les alertes des scientifiques, les alertes du GIEC, etc.
Donc les alertes sont relayées par des activistes, on parle de plus en plus de la lutte contre le réchauffement climatique, mais à quelques exceptions près, la communauté scientifique ne participe pas à la politisation du débat.
Pour les scientifiques, c'est vraiment, vraiment pas évident à la fois de parler de ces émotions, de sortir d'une certaine forme de réserve qui est quand même assez souvent de mise dans notre profession. Parce qu'il y a toujours une crainte sous-jacente, qui je pense est difficile à effacer, de perdre en crédibilité quand on le fait, voire parfois d'entacher les institutions dont on fait partie.
Cette forme de réserve dont parle Julien Carré, elle est partagée par d'autres chercheurs que tu as interrogés, Victor ?
Oui, c'est même une idée plutôt majoritaire. Et c'est l'idée, en fait, pour eux, que le modèle que le chercheur doit respecter, c'est de produire du savoir, de l'éclairer, donc de l'expliquer, mais ensuite de laisser le politique piocher dedans, en fait, et faire son marché, hein, entre guillemets. Et en fait, cette question de la réserve, elle est très sensible pour la science du climat, parce qu'il y a eu énormément de polémiques depuis des dizaines d'années. Il y a eu des instrumentalisations de certaines études, il y a eu tout le discours des climato-sceptiques, les fake news, etc. Il y a même eu aussi des scientifiques qui ont été payés par certaines entreprises pour cacher certains scandales sanitaires ou climatiques. Donc tout ça est vraiment très sensible, et ça explique en grande partie pourquoi est-ce que cette question de la neutralité est très importante pour les scientifiques.
La neutralité est très importante pour les scientifiques, mais il leur est de plus en plus difficile de s'y tenir, parce que les chercheurs ne sont pas seulement témoins du réchauffement climatique, ils observent aussi l'inaction politique.
Margot, je vois l'armoire derrière toi. Est-ce que tu y as arrangé le son dont on a parlé en préparant l'épisode ?
Ah oui, justement, je l'ai mis de côté dans l'armoire spécialement pour l'enregistrement. Attends, il est là.
Vous avez réussi là où il y avait eu l'échec il y a 6 ans. Vous avez réussi alors que le scepticisme était encore à un niveau élevé ces derniers mois. Vous l'avez fait, et vous l'avez fait à Paris.
Je reconnais François Hollande et son discours de clôture de la COP21. J'imagine que tu vas nous parler du manque de respect de cet accord.
Oui, en fait, la COP21, c'est un grand succès diplomatique, mais c'est aussi un bon exemple qui montre que malgré les engagements qui ont été pris, il y a de nombreux États qui ne respectent pas en fait, ces engagements. Ça peut s'expliquer par le fait que la COP21, c'est un engagement moral, éthique de la part des États, donc ils s'engagent quand même à le respecter, mais il n'y a pas de mesures contraignantes. Si on en revient au niveau national, la Convention pour le climat qui a été voulue par Emmanuel Macron a produit des propositions qui ont finalement été complètement balayées par le gouvernement et par les élus. Donc il n'y a pas de définition du terme d'écocide, par exemple. Il n'y a pas de mesures fortes dans de nombreux domaines.
Pas assez de mesures fortes. Comment on explique ce décalage entre l'urgence dénoncée par les scientifiques et les décisions en demi-teinte prises par les politiques, Victor ?
Il y a plusieurs pistes d'explication. Il y a une chercheuse qui m'a par exemple raconté que lors de ses auditions à l'Assemblée nationale ou au Sénat, elle s'est retrouvée face à des élus qui ont à la fois une très haute idée d'eux-mêmes et pour certains la conviction de parfaitement maîtriser le sujet, alors qu'en fait leurs discours ils sont parfois stéréotypés, parfois très éloignés de la réalité. Bon, elle m'a aussi dit qu'il y a des élus qui s'y intéressent vraiment et qui ont fait des recherches et qui commencent à avoir plus de connaissances, mais globalement elle a été quand même un peu choquée par certains qui ne connaissent pas très bien en fait le réchauffement climatique. Et puis il y a un autre scientifique qui me disait qu'ils ont tous vécu ce moment face à des politiciens ou à des médias où en fait on leur dit, bon, résumez-moi en 35 secondes tel problème sur le climat, alors que eux, en fait, quand ils en parlent, déjà ils ont même une conférence d'une heure, ils n'ont pas le temps de tout dire, donc en 35 secondes ils se retrouvent vraiment gênés, quoi.
Les podcasts, c'est pratique, on a un peu plus que 35 secondes pour résumer des sujets importants. Et ces lacunes du personnel politique, Victor, tu m'as expliqué que c'était en partie un problème de formation.
Oui, ça c'est aussi des chercheurs qui m'ont expliqué ça, que dans les grandes écoles de type Sciences Po, l'ENA, l'artisanat, même les écoles de commerce ou d'ingénieurs, les enseignements sur le réchauffement climatique et sur le climat en général sont assez insuffisants. Et surtout, les enseignements sur la décision en contexte de réchauffement climatique sont quasiment inexistants. Et si on reprend les exemples de l'écotaxe et de la taxe carbone, qui ont été à l'origine de mouvements sociaux, des gilets jaunes et des bonnets rouges, ça c'est un excellent exemple de cette mauvaise gestion, parce que ces taxes-là en fait étaient bonnes pour le climat en principe, mais elles ont été très mal expliquées, très mal mises en œuvre, et finalement la gestion a été assez catastrophique, quoi.
Officiellement, c'est un ajournement. De fait, cela ressemble bien à un enterrement. Le gouvernement a donc décidé de renoncer à la taxe carbone. C'est François Fillon qui l'a annoncé aujourd'hui.
Et d'ailleurs, sur ces taxes, il y a un autre chercheur qui a aussi soulevé la responsabilité des médias.
C'est quoi cette responsabilité, Victor ?
Alors, il m'expliquait que les médias alertent depuis 30 ans sur l'augmentation du prix de l'essence, sans rien dire quand il baisse. Et en même temps, il y a eu une explosion du coût des loyers, mais qui est beaucoup moins médiatisée, m'expliquait-il, alors que ça a conduit de nombreuses personnes à quitter les villes pour s'installer dans des lotissements en périphérie urbaine, où ils sont fortement dépendants en fait, de la voiture, ce qui crée forcément plus de pollution, etc. Donc il me disait que le gouvernement a sa part de responsabilité très clairement, mais qu'eux, en fait, ils réagissent aussi face à une population qui est influencée par les médias, par les réseaux sociaux, et donc ils s'adaptent finalement aussi au manque de connaissances des gens en général.
Il est là ! Le réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines.
Au Moyen-Âge, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. C'est ce qu'a montré ce climatologue.
Le changement climatique a eu des conséquences. Il y a maintenant une jungle à Calais.
Et puis il y a le poids du mandat et le besoin de se faire réélire qui pousse certains élus à satisfaire des intérêts très diversifiés. Alors ils vont essayer de satisfaire par exemple des scientifiques, mais aussi des patrons, et puis des syndicats, et puis des professeurs, etc. Et donc, en essayant de satisfaire tout le monde, ils n'arrivent plus à assumer des choix de société qui seraient très marqués et assez radicaux et qui feraient plaisir à finalement pas grand monde.
Un agenda politique qui l'emporte donc sur les mesures qui s'imposent pour le climat, ça plus les lacunes et le manque d'attention de nos dirigeants, ça commence à faire beaucoup. Et c'est là que les scientifiques envisagent de sortir de leurs réserves.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
So I'm here because scientists are not being listened to. I'm willing to take a risk.
Je suis ici parce que les scientifiques ne sont pas écoutés. On a essayé de vous avertir depuis plusieurs décennies. Nous courons à la catastrophe. Les scientifiques du monde entier ont été ignorés. On va tout perdre. Et nous ne blaguons pas, nous ne mentons pas, nous n'exagérons pas. Victor, l'homme qui dit ça s'appelle Peter Kalmus. Il est chercheur spécialiste du climat pour la NASA. C'était début avril à Los Angeles et il participait à une manifestation devant la banque JP Morgan Chase.
Oui, si on revient en France, le 9 avril dernier, il y a des scientifiques qui ont perturbé la fermeture du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et donc on a pu les voir avec de grandes pancartes « Dire la vérité n'est pas un crime ». Et en fait, ces scientifiques-là appellent à la désobéissance civile pour que des mesures plus urgentes soient prises pour le climat.
Et ce type de manifestation, c'est nouveau dans le monde scientifique ?
Oui, c'est assez nouveau. Il y a des groupes comme Scientifique Rébellion qui prônent la désobéissance civile ou même l'implication de scientifiques dans des manifestations. Alors après, ça ne va pas toujours aussi loin que ces manifestations-là, hein, qui sont déjà une petite révolution finalement dans le monde des scientifiques qui est, on va dire, plutôt sage habituellement. Mais ça montre en fait la montée d'un nouveau sentiment, c'est la responsabilité de la communauté scientifique qui doit s'impliquer plus dans la politique.
À partir d'un moment où des scientifiques ont connaissance de catastrophes, il est de leur devoir d'essayer d'alerter la population à ce sujet.
Vous entendez à nouveau le physicien Julien Carré.
Ça s'est déjà vu dans le passé sur des choses qui sont assez bien connues, comme l'amiante, le tabac, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'aperçoit qu'il y a quelque chose dans la société qui ne fonctionne pas, il me paraît légitime de faire tout ce qu'on peut pour le faire savoir.
Alors un exemple de ça, c'est par exemple François Gémen, qui est un chercheur spécialiste sur le climat et qui a aussi travaillé pour la campagne de Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts. Et lui, il me dit qu'il considère que le refus de certains de s'impliquer davantage en politique est presque criminel, parce qu'en fait, ils se rendent complices de l'inaction politique.
Mais tu nous l'as dit tout à l'heure, la question de l'engagement des scientifiques ne fait pas consensus, même dans un rôle d'alerte, à cause de la fameuse réserve dont ils doivent faire preuve.
Oui, je te donne un exemple, c'est celui du GIEC. Donc, comme on disait tout à l'heure, le GIEC a été créé en 1988, et c'est en fait une énorme association de plein de chercheurs, de scientifiques spécialistes du climat dans le monde. Il y a des glaciologues, il y a des climatologues, mais il y a aussi des sociologues, enfin, il y a vraiment tout un tas d'experts. Et donc, il y avait vraiment l'idée qu'il fallait que le GIEC soit absolument pas politique, pour que personne puisse contester les données, pour que ce soit une manière de dire, bon voilà, ça c'est les données brutes et froides, on vous les explique, mais on s'implique pas en politique. Ça, c'est le concept de policy relevant, c'est-à-dire étudier les politiques à élaborer et qui s'oppose au concept de policy prescriptive, qui veut dire on va fournir des directives politiques. Les scientifiques vont parfois ergoter ou se battre pour le moindre mot, la moindre ligne, pour être sûr que ce soit vraiment pas politique et que, en gros, ça heurte personne, que ça reste totalement froid, quoi. On pourrait critiquer un peu cette neutralité-là, mais c'est ce qui fait que le GIEC a aujourd'hui une autorité internationale aussi forte. Et en fait, si on sort de ce cadre-là, il y a des chercheurs qui me disaient que certains pays pourraient complètement refuser de reconnaître la scientificité du rapport. Et en fait, le GIEC perdrait la reconnaissance universelle dont la négociation sur le climat a vraiment besoin aujourd'hui.
L'insulte suprême qu'on peut renvoyer à un scientifique qui alerterait sur l'urgence climatique, c'est de le qualifier de militant. Et donc, sous-entendu, le militant raconte n'importe quoi, peut dire tout. Et quelque part, ça décrédibilise complètement la parole du scientifique.
Et donc, si l'engagement ne peut pas passer par des organisations qui doivent conserver, tu l'as dit, une autorité scientifique, à quoi il peut ressembler, Victor ?
Ça peut prendre plusieurs formes. Il y a par exemple les manifestations, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis, il y en a d'autres qui vont promouvoir une vulgarisation auprès des citoyens avec des actions très précises. Par exemple, Atécopol, dont fait partie Julien Carré. Et en fait, ça va être, par exemple, vulgariser les rapports du GIEC pour les citoyens. Ils vont aussi faire des tribunes dans la presse. Là, le but, ça va être d'interpeller directement les politiques. Ils vont tenter de les secouer un petit peu, entre guillemets. Et puis, ils vont aussi lutter contre le déni climatique, donc les climato-sceptiques. Ils vont lutter aussi contre le greenwashing de beaucoup d'entreprises, en fait, qui vont un peu reprendre leurs études ou surfer sur la mode du climat pour vendre leurs produits soi-disant bio ou vert, alors que pas du tout. Et puis, il y a aussi des chercheurs qui militent pour une sobriété scientifique.
Une sobriété scientifique, c'est-à-dire ?
En fait, c'est le fait que la recherche en elle-même a un coût en CO2 et en gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'il y a des recherches qui vont coûter très cher ou qui vont demander beaucoup d'énergie. Par exemple, les recherches qui impliquent des lasers, la recherche avec les data centers, tout ce qui est en informatique, sur même l'intelligence artificielle qui va consommer beaucoup de données. Il y a les labos, il y a les animaux de laboratoire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui consomment de l'énergie et de l'argent. Et en fait, il y a certains scientifiques qui prônent une sobriété dans cette recherche. Et puis, il y a aussi la question de à quoi servent toutes ces recherches.
Et il faut dire ce qui est actuellement, une grande partie de nos recherches contribue à accroître les dommages environnementaux, à permettre la croissance économique, le développement d'applications qui ne répondent pas forcément à des besoins fondamentaux. En tout cas, à titre personnel, j'ai décidé de réorienter mes activités de recherche, par exemple d'arrêter certaines thématiques et pour en démarrer d'autres, qui me paraissait, en tout cas à titre personnel, plus en accord avec la situation écologique.
Alors il y a aussi un débat, par exemple, sur la question des publications scientifiques au niveau mondial. Il y a quand même une course mondiale à la publication, et ça se passe en France, mais dans tous les pays du monde, où il y a des chercheurs qui vont publier, parce que le fait de publier, en fait, des études dans des revues prestigieuses va pouvoir déclencher des revenus ou des financements à certains labos. Et puis, il y a beaucoup d'études à cause de ce phénomène-là qui servent parfois pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'on va publier une petite étude dans une revue qui ne va pas avoir un impact incroyable, mais qui va jouer, par exemple, sur la notoriété du chercheur ou qui va jouer sur les financements, comme je le disais. Donc, il y a vraiment une question de se dire peut-être qu'on pourrait tenter de faire quelque chose pour éliminer ces études pas très utiles recentrer notre travail sur des études qui ont vraiment un vrai impact et un vrai intérêt.
Ok, donc on voit bien tous les leviers que pourraient actionner les scientifiques. Dernière question, puisqu'on parle d'engagement politique, Victor, Est-ce qu'on a des chances de voir des chercheurs se présenter à des élections, par exemple ?
Alors, pourquoi pas, hein ? Mais même s'il y a quelques évolutions de la communauté scientifique sur l'engagement politique, elle reste globalement très frileuse sur cette question et elle veut garder cette fameuse neutralité pour garder son autorité, pour garder en fait sa capacité à convaincre en étant, on va dire, entre guillemets, pur, quoi.
Si on faisait partie d'un parti politique, on pourrait nous dire, ben voilà, vous critiquez l'autre parti parce que ce n'est pas le vôtre. Mais en l'occurrence, si on revient sur la présidentielle et sur le programme des partis politiques qui étaient en présence, on peut constater que pas un seul des partis politiques n'avait un programme qui permettait de respecter l'accord de Paris. Et donc ça, c'est notre position en dehors du jeu politique lui-même qui nous permet de pouvoir l'affirmer.
Il y a même un expert qui me disait que le fait de faire de la politique pour des chercheurs ou pour des scientifiques, c'est une très mauvaise idée parce que, selon lui, la plupart sont vraiment très mauvais sur ce terrain. Et après tout, bon, au-delà de cette petite pique un peu rigolote, on peut comprendre leur travail de scientifique, c'est d'être des scientifiques, c'est pas d'être des politiques, c'est quand même... faut quand même se spécialiser, et donc on peut comprendre les réticences de ce côté-là.
Entre lutte contre l'immobilisme politique et attachement à leur légitimité scientifique, les chercheurs sont donc sur un fil. On a bien compris tout ce qui se joue pour eux grâce à toi, Victor. Merci beaucoup.
Merci, Margot.
Victor Garcia, journaliste au service Sciences de l'Express. On peut retrouver tes articles sur le climat et bien d'autres sujets sur l'express.fr. Si cet épisode vous a plu, on vous encourage vivement à sortir de votre réserve et à nous laisser des commentaires sur vos plateformes préférées. Vous pouvez aussi nous écrire à laloupe@l'express.fr. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict, par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Fanny Marlier, Jules Cros, Mathias Pengili, Raphaël Puyot et Lison Verrier. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.